Bonjour et bienvenue au tout premier podcast des éditions Mémoire. Mon nom est Jean-Dominique Leduc. Non seulement suis-je animateur de ce tout nouveau podcast, je suis aussi par le fait même éditeur de cette modeste maison d'édition qui s'appelle Mémoire. Maison d'édition donc qui se destine à la publication d'ouvrages de référence sur l'histoire de la bande dessinée québécoise. Et donc, ce podcast aura pour but de vous proposer des rencontres en tête-à-tête avec différents acteurs importants du milieu de la bande dessinée québécoise, que ce soit des auteurs, des illustrateurs, des éditeurs, ou encore des journalistes, chroniqueurs, des directeurs d'événements. Bref, des gens qui participent activement à ce merveilleux monde de la bande dessinée québécoise. Et donc, pour moi, c'était complètement impensable de débuter cette belle aventure sans d'abord me prévaloir d'un premier tête-à-tête avec ce que j'oserais dire une éminence grise du point de vue historique sur la bande dessinée québécoise. Et j'ai nommé Michel Viau. Michel, bonjour.
Bonjour Jean-Dominique.
Alors Michel, si tu me permets, je vais faire une première entorse à l'étiquette qui veut que l'on vous voie notre invité. Ce serait un peu saugrenu, étant donné que nous collaborons sur une base quotidienne à différents projets. Donc, Michel, brisons cette étiquette et tutoyons-nous, si ça te convient.
Ouais. Non, je préférerais M. Viau, mais vous pouvez y aller, si ça peut te faire plaisir.
Bon, alors, je peux quand même dire M. Viau et te tutoyer. Alors, M. Viau, tu as une feuille de route assez impressionnante et je vais me permettre, question de planter le décor, de faire un bref survol, si on veut, de ton pedigree. On peut donc dire que dans une certaine mesure, depuis maintenant près de 20 ans, tu travailles à la rédaction d'une histoire avec un H majuscule, la bande dessinée québécoise.
Presque 20 ans maintenant, oui.
Et ça passe vite?
Oui, très vite.
En tout cas, à tout le moins, ce qu'on peut constater à vue de nez, c'est qu'en 20 ans, tu as su te garder fort occupé. Bon, alors, première publication en 1999 aux éditions Millil paraît le BDQ, Répertoire des publications de bandes dessinées au Québec, des origines à nos jours. Donc, un ouvrage que je considère à plusieurs égards très, très important. C'est un incontournable. Et ce qui est très particulier de cet ouvrage-là, en fait, c'est qu'il répertorie le corpus de tous les artisans québécois qui ont été publiés et au Québec et à l'étranger, que ce soit du point de vue du fanzina, du comic book ou du cartonné couleur.
C'est ça, exactement, que ce soit en français ou en anglais, c'était tous les artistes québécois là, qui ont travaillé en bande dessinée. En fait, c'était un répertoire de publications, donc c'était les revues, les comics, les albums. Malheureusement, ça n'incluait pas les bandes publiées dans les journaux, ce qui devait faire l'objet d'un volet suivant. Donc, c'était, en vrai dire, mon projet était d'écrire l'histoire de la bande dessinée. Et avant d'écrire cette histoire, je devais recenser ce qui était paru. Et donc, c'était ce répertoire-là qui a été assez bien accueilli à l'époque. C'était une surprise pour beaucoup, beaucoup de gens de voir que la bande dessinée était aussi riche au Québec. Ça l'a surpris là, vraiment les gens de voir qu'il y avait de la bande dessinée, pas seulement depuis les années 70, mais qu'il y en avait depuis les années 30, les années 20, les années 10 même. Les premiers albums datent de ces années-là, dans la première décennie du 20e siècle. C'est des albums de caricature, mais c'était aussi des gens qui faisaient des bandes dessinées. Donc, ça a surpris tout le monde de voir la richesse de cette bande dessinée québécoise-là, qu'on pense tout le temps qu'elle n'existe pas ou que c'est le marque depuis 15 ans.
On y reviendra d'ailleurs.
Ou encore, à tout le moins, plusieurs personnes pensaient que c'était dans les années 70 que la bande dessinée québécoise avait commencé à être publiée, mais il y en avait depuis bien avant cela.
Évidemment, un tel ouvrage vous a assuré d'une postérité au niveau du travail, hein, parce qu'après avoir déterré une aussi importante production, conséquemment, il y a beaucoup à dire sur la bande dessinée québécoise.
Ben oui, effectivement. J'ai commencé à écrire des articles par la suite à ça. Oui. Mais en fait, ce que ce livre-là m'a apporté, c'est en fait que je me suis retrouvé rédacteur en chef de la revue Safari.
Oui, de 2001 à 2004.
C'est ça, tout simplement. Donc, 2 ans après la parution du livre, c'est que Safari, à cette époque-là, avait déménagé. Safari est une revue de Québec qui venait de déménager à Montréal avec un nouveau rédacteur en chef qui s'y connaissait très peu en bande dessinée. C'était plus un journaliste, en fait. C'était Alain Meunier, un excellent journaliste, mais qui ne s'y connaissait pas vraiment en bande dessinée. Donc, on m'a demandé de devenir comme son assistant. pour l'aider au niveau bande dessinée. Et en fait, j'ai passé une entrevue, tout ça, bon. Et quand je me suis présenté sur les lieux de travail, c'était, en fait, j'étais le rédacteur en chef. Il n'y avait plus personne d'autre, c'était moi. Comme ça, du jour au lendemain, je me retrouve rédacteur en chef du magazine.
Et d'ailleurs, lors de ton passage... oui, là, j'ai un peu de problème avec la gestion d'étiquette.
T'es perturbé, là.
Alors, de 2001 à 2004, Michel, lors de ton travail de rédacteur en chef au magazine Safari, tu as, à mon humble avis, de l'avis de plusieurs dans le milieu de la bande dessinée au Québec, tu as largement contribué à développer de nouveaux talents du point de vue de la bande dessinée, notamment dans l'encart qui s'appelait SAF-BD. Un encart qui a d'abord été lancé par Mario Malouin.
Oui, c'est ça. C'est au moment où du passage de la revue de Montréal, de Québec à Montréal, il y a eu un changement de formule et c'est là qu'est apparu le SAF-BD. C'était un petit supplément, c'était les 16 pages de bande dessinée qui n'étaient pas nécessairement un encart au centre, ça pouvait être une section à la fin du magazine et tout ça. C'était 16 pages, Mario s'en occupait, mais il était à Québec. Alors quand je suis arrivé à la rédaction de Safari, ben, je l'ai repris en main et j'en ai fait vraiment comme un magazine qui serait incorporé au milieu du magazine. Donc c'était les 16 pages en papier journal au centre du magazine avec... une couverture en papier glacé, ce qui faisait donc 20 pages en tout. Je lui ai donné un numéro. Donc, vraiment, c'était un magazine. Tant qu'à moi, on pouvait garder le SAF-BD puis jeter le reste.
Ben d'ailleurs, ça correspond, et encore une fois, ça n'implique que moi, mais aux plus belles années de Safari, parce que c'est à cette époque, notamment, grâce à ton flair, que tu donnes une première chance à Marc de la Fontaine et Maryse Dubuc.
Oui.
Avec un strip qui s'appelait Les Nombris, je crois.
Je me souviens vaguement de la chose. ça fait exactement 10 ans cette année. C'est le 10e anniversaire des Nombris. Oui, j'ai reçu tout simplement une soumission. Je connaissais Marc de nom. Je connaissais ses travaux à cause du BDQ. J'avais recensé plusieurs de ses bandes dessinées, ses albums qu'il avait fait, des albums pédagogiques sur la langue anglaise, des trucs comme ça. Et je reçois cette soumission-là, tout simplement par la poste, 3 pages de cette bande dessinée-là. Une histoire en 2 pages, une histoire en 1 page. Moi, ça a cliqué tout de suite, c'était en plein, c'était parfait pour la clientèle, le dessin était merveilleux, tout ça. J'en ai parlé à l'éditeur, qui a accepté, finalement, mais seulement que sur 1 page, et non pas 2 pages. Fait que, donc, c'est comme ça que les Nombrés ont commencé.
C'est incroyable, là. Aussi, une autre série qui a quand même énormément marqué le lectorat au Québec... Et là, je pense à l'Académie des chasseurs de primes.
Ça, c'est moi qui est allé la chercher. En fait, parce que je collaborais avant ça, avant d'être à Safari, je collaborais au fanzine Zenzag, dans lequel il y avait l'Académie des chasseurs de primes, qui était une bande dessinée merveilleuse. Pour moi, c'était d'un niveau incroyable. Et quand je suis arrivé à la tête de Safari, donc je me suis occupé du SAF-BD, je me suis dit, ça prend des feuilletons aussi, des choses un peu différentes. Et j'ai contacté Benoît Godbout, qui a accepté de reprendre sa série en couleur, mais sur un nombre plus limité de pages. C'était des épisodes de 2-3 pages par mois seulement. Donc, il fallait même si ça se suivait, il fallait quand même que ça soit une histoire complète en elle-même. Donc, il a repris toutes les premières pages qu'il avait publiées dans Zinzag, ils ont retravaillé, ils ont mis en couleur et tout ça.
À la même époque, en fait, de 2003 à 2008, Michel, tu rédiges des capsules historiques pour le compte du fanzine mensuel.
C'était des articles, en fait. C'était pas seulement des capsules. C'était la fameuse histoire que j'avais dit qui était le projet initial, en fait. Donc, je l'ai écrit sous forme de feuilleton, si je peux dire. C'était parfois de 8 à 16 pages du fanzine qui était occupé par cette histoire de la bande dessinée-là. Je suis allé de façon chronologique. Donc, ça me permettait d'inclure aussi ce que j'avais trouvé qui concernait les bandes dessinées publiées dans les journaux, ce qui n'était pas dans l'ouvrage BDQ, puisque lui portait seulement que sur les publications, donc les albums, les revues, tout ça. Donc, toutes les premières bandes dessinées qui étaient apparues dans les journaux, j'ai pu en parler à ce moment-là dans Safari, pas dans Safari, mais dans Mensuel,
oui. Qui était à l'époque piloté par Francis
Servieux. Francis Servieux, pendant toutes ces années-là. Et je dois dire que Francis venait régulièrement me fouetter pour avoir son article. C'était souvent écrit, là je l'écrivais en 2 jours, la fin de semaine, de façon très intensive, avec Francis par-dessus mon épaule le dimanche à 5h, puis qu'il repartait avec le texte.
Oui, d'ailleurs, c'est pas la seule fois où tu as subi le fouet, hein, pour ces écrits-là.
Non.
On y reviendra, puisque puisque ce travail rédactionnel-là aura été, en quelque sorte, la base du
livre, oui, effectivement.
Du BDQ, Histoire de la bande dessinée au Québec, tome 1, des origines à 1979, qui est le deuxième livre du catalogue des éditions Mémoire. Mm-hmm. Et bon, je sais que ça sent la plug, mais c'est inévitable. Oui. De 2008 à 2011, Michel, tu endosses le poste de directeur de la section BD des éditions 400 coups.
Oui.
C'est à toi qu'on doit la collection Rotor.
Plus ou moins.
Plus ou moins.
Plus ou moins.
Éclaire-nous.
OK. C'était une discussion avec Jimmy Beaulieu, à l'époque où Jimmy voulait publier Une piquante petite brunette.
D'Albert Chartier.
D'Albert Chartier. Jimmy est allé rencontrer Christiane Chartier, la fille d'Albert, qui était l'ayant droit. Bon. Et il m'avait demandé de l'accompagner, parce que en tant que spécialiste de l'histoire de la bande dessinée, donc je l'ai accompagné pour aller voir Christiane, pour la convaincre que les 400 coups seraient la maison idéale pour publier les œuvres de son père. Donc je suis allé avec Jimmy, et en discutant dans l'auto, en se rendant là-bas, on s'était dit que ce serait le fun qu'il y ait une collection de bandes dessinées d'aventures, de BD de genre au Québec. Et c'est là qu'est né Rotor, finalement.
Et donc, notamment, du catalogue de Rotor, tu as renoué, si on veut, avec l'Académie des chasseurs de primes.
Oui.
Qui a connu un très beau succès, d'ailleurs.
Oui, ça a bien marché. En fait, les deux premiers titres ont très, très bien marché. C'était de bons auteurs, de bons vendeurs. Il y avait Les Contes d'Outre-Tombe de Jacques Lamontagne, qui, justement, attendait sur les tablettes des 400 coups depuis à peu près 3 ans, mais ne trouvait pas de niche pour être publié.
Un autre talent, d'ailleurs, que tu as découvert au SAF BD, non?
Non, 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 non. Jacques est un illustrateur talentueux qui travaillait depuis longtemps.
En publicité, oui.
En bande dessinée, il a commencé à l'époque justement du déménagement de sa Ferrer. Il y a eu un gros changement de personnel, autant au niveau des illustrateurs, des scripteurs que de la rédaction, quand sa Ferrer a déménagé de Québec à Montréal. C'est là que Sylvain Bolduc, le directeur de sa Ferrer, est allé chercher Jacques Lamontagne, qui travaillait pour Délire, qui faisait les couvertures, entre autres, et plusieurs illustrations, est allé le chercher pour travailler à sa Ferrer. Dans Safari, au début, Jacques faisait une série qui s'appelait Bertrand le rêveur,
qui a duré quelques temps,
et qui plaisait plus ou moins au directeur, qui a demandé de faire autre chose.
Qui était une série humoristique.
C'était un personnage qui rêvait, puis qui se retrouvait dans des films, qui pouvait se retrouver à la place d'Indiana Jones, à la place de Tom Cruise en Mission Impossible.
Oui, donc il fabulait.
C'est ça, il fabulait, puis se retrouvait tout le temps dans la réalité, là, dans une situation où pas tellement avantageuse pour lui. Donc, finalement, en discutant avec Jacques, j'ai demandé ses goûts, ce serait quoi et tout ça. Et Jacques me dit qu'il aimait beaucoup le fantastique, les histoires à la EC Comics et tout ça. Bon, je dis, allons-y, on va faire ça. On va faire des histoires de 3 pages à chaque mois. Et c'est comme ça que les Contes d'Outre-Tombe ont commencé. Par la suite, évidemment, c'était pas de la grosse rigolade, fait que ça passait plus ou moins bien auprès de la direction de Safari, qui préférait plus la grosse farce. Mais je disais, écoute, c'est un dessinateur incroyable, on peut pas le laisser passer, on peut pas le laisser partir. Puis je lui ai montré certains des dessins de la dernière histoire de Jacques, qui était faite plus en couleur directe au lieu d'avoir son style avec le trait noir et tout ça. Fait que le directeur a dit, OK, dis-lui qu'il continue à dessiner dans ce style-là. Fait que c'est bon, donc j'ai prévenu Jacques, j'ai dit ça serait bien que tu fasses plus style couleur directe. Et c'est là que s'est développé son style qui a fait sa renommée aujourd'hui. Là.
Donc dans les séries Les Druides.
Les Druides. Aspic. C'est ça. Tout ça vient donc finalement du goût du directeur qui préférait ce style de dessin-là.
C'est intéressant, Michel, parce que dans une certaine mesure, non seulement tu rapportes l'histoire, mais tu y as aussi par le fait même participer.
Oui, d'une certaine façon, oui. Je me suis impliqué dedans, mais c'est tout le temps plus amusant de le regarder de l'extérieur. Des fois, c'est plus difficile quand on est dedans.
Parlant de regard extérieur, en 2013, tu co-écrivais pour le compte des éditions Québec-Amérique le livre Les années crocs.
Oui.
Avec moi, en fait.
Oui, il me semble.
Oui, alors un livre qui retrace l'histoire du... Oui. Défunt magazine humoristique Crocs, qui a été très, très important au niveau, j'oserais dire, la mise en place...
Oui, d'une industrie.
D'une industrie.
C'était la première fois, ce magazine-là, c'était la première fois que des auteurs étaient payés pour faire vraiment des œuvres personnelles. Je pense à Jean-Paul Lide ou Réal Godbout, Pierre Fournier, Claude Cloutier, tout ça, Jules Prud'homme, qui ont développé des séries qui étaient personnelles. C'était leurs œuvres et ils étaient payés pour la publier. C'est pas les tout premiers professionnels comme tels. Je peux penser aux auteurs qui illustraient la revue Héros dans les années 50, mais là, c'était de la bande dessinée catholique, c'était très dirigé et tout ça.
Oui, c'était de la commande, en fait.
Exactement, ouais. Comme ceux aussi, voilà, dans une certaine mesure, ceux qui participent au débrouillard. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Ils font de la BD jeunesse, mais éducative, avec, bon, il y a des comités qui étudient
ce qui n'empêche en rien un talent immense qui est celui de Jacques Goldstein.
Exactement, c'est ça. Dans certaines mesures, mais on voit aussi ce que Jacques Goldstein peut faire quand on le laisse loose. On l'a vu avec Toto le Bosniaque.
Qui est une extraordinaire série.
Bon, exactement. Donc, tout ça pour dire que finalement, Crow était un moment charnière de l'histoire de la bande dessinée dans la mesure où la revue était viable et pouvait payer ses collaborateurs.
Je pose la question, mais c'est un peu y répondre. N'est-ce pas justement ce qui manque présentement au Québec?
Oui, mais tu le sais, on en parle souvent.
Oui, à micro fermé,
très souvent. Oui. Oui, exactement, c'est ce qui manque. Parce que, si, j'imagine que c'était pour venir plus tard dans la conversation, mais si on regarde la situation actuelle de la BD au Québec, il n'y a jamais eu autant d'albums qui est publié.
Ouais.
Il n'y a jamais eu autant d'auteurs, mais il y en a combien là-dedans qui vivent de ça? Il ne doit pas en avoir beaucoup.
C'est-à-dire qu'il y a une multiplicité de structures éditoriales.
Mm-hmm.
Conséquemment, d'auteurs aussi.
Oui.
Et lorsqu'on pose la question, est-ce que la bande dessinée québécoise a son lectorat?
Mm.
Je trouve que c'est ne pas aborder la question du bon angle. Mm-hmm. Parce qu'en fait, le lectorat suit lorsqu'il a accès au matériel. Et le problème, c'est que bon, lorsqu'on vit dans de grands centres urbains, comme Montréal et Québec et Sherbrooke, c'est très facile d'avoir accès à du matériel, d'aller en librairie ou en bibliothèque se procurer un album. Mais lorsqu'on sort des grands centres urbains, là, ma foi, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, on peut dire que dans une certaine mesure, le succès de la bande dessinée québécoise en est un, d'un point de vue géographique, qui en est un des grandes villes, exactement. Des grands centres.
Oui, oui, oui. C'est pour ça que le fait d'avoir une revue, mettons, qui serait distribuée partout, à l'échelle de la province, ça permettrait de rejoindre beaucoup plus de gens. Parce qu'il y a des régions complètes du Québec où il n'y a à peu près pas de librairie. On en trouve très, très, très peu. Donc, et si les albums ont de petits tirages et sont mal distribués, bien, c'est sûr que ça ne se retrouvera pas dans plusieurs régions. Donc, tandis qu'une revue qui serait distribuée dans des dépanneurs, dans des pharmacies, dans des épiceries, ben ça, il y en a à l'échelle de la province.
Oui, ça permettrait aussi à un magazine de ce type-là aussi de sortir du réseau des librairies. Parce qu'il faut savoir, et les gens ne sont pas d'ailleurs sans savoir, que depuis une dizaine d'années, il y a une explosion éditoriale en Europe, une surproduction. Oui. On est passé en 10 ans de 1000 nouveautés à 5000.
Oui.
Et donc ici, au Québec, les librairies, non seulement doivent faire face à cette problématique-là, mais en plus, comment on incarne notre propre bande dessinée, comment on la défend et comment on la promeut lorsqu'on reçoit des caisses et des caisses et des caisses incessantes de nouveautés.
Ouais. C'est effectivement difficile, mais ça soulève aussi une autre question. Tantôt, tu parlais, est-ce que la BD québécoise rencontre son lectorat? Il faut voir aussi l'offre de la bande dessinée québécoise. Je pense que le lecteur québécois n'est pas différent du lecteur européen. Donc, qui va aimer aussi la bande dessinée d'aventure, de science-fiction, la BD policière, la BD de genre, quoi, comme on dit, là, ça, avec un certain...
Sans les a priori qui accompagnent le...
C'est ça. Donc, le lecteur québécois n'est pas différent du lecteur européen. Et si on regarde les ventes de bande dessinée au Québec, c'est les mêmes titres qui sont vendus en Europe, mais ce n'est pas ce que les auteurs québécois offrent ou que les éditeurs québécois offrent en général au lecteur. Alors, c'est pas surprenant à ce moment-là que le lecteur québécois se tourne vers les albums européens plus que vers les albums québécois.
Mais d'ailleurs, fort de ton expérience éditoriale, mais aussi comme observateur, est-ce que tu considères que l'écosystème éditorial actuel, justement, n'aide pas vraiment la diversité de la bande dessinée? Et je m'explique. C'est-à-dire que on prend un groupe d'éditeurs, comme par exemple La Mauvaise Tête, Par, les éditions Trip, les éditions de la Pastèque, Mécanique générale, Nouvelle Mouture.
Colosse.
Ce sont des éditeurs qui, bien qu'ils se démarquent les uns des autres, occupent un espace commun.
Mm-hmm.
C'est-à-dire c'est une... Et là, j'utilise les guillemets, mais c'est une certaine bande dessinée.
Oui, exactement, oui.
Et à côté de ça, il y a... on apprenait tout récemment, en fait, on apprenait aujourd'hui même... Oui. Le rachat de première ligne par Vents d'Ouest.
Oui.
Il y a aussi les éditions Boomerang qui se spécialisent dans la bande dessinée jeunesse. Il y a Presse Aventure aussi. Mm-hmm. Mais est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a quand même un fossé entre ces deux clans-là, si je peux
dire? Exactement, oui. Il y a un gros trou. Il y a un gros trou et c'est dans ce gros trou-là qu'on trouve la majorité des lecteurs. Donc, la majorité des lecteurs de bande dessinée n'auront rien à se mettre sous la dent qui soit québécois.
Local. Donc, et c'est pour ça que ces gens-là... admettons qu'il y aurait une offre raisonnable. Encore là, le défi pour de la bande dessinée, et j'ai horreur du thème grand public, mais je vais l'utiliser quand même, avec des gros doubles guillemets, mais est-ce que ce serait quand même pas difficile... Justement, de faire face à des machines comme Zombilinium, comme Spirou.
C'est pas seulement que ça, c'est qu'en fait, le problème est plus au niveau des coûts de production. C'est-à-dire que pour concurrencer ce genre d'album-là, comme tu dis, les albums européens, pour concurrencer ça, donc, ça prend des albums cartonnés et en couleur. Et ça coûte cher à faire. Même si on les fait imprimer en Chine, ça coûte cher à faire. Et pour que ce soit rentable, il faudrait en vendre à peu près 3000 copies, minimum. Minimum 3000 copies.
À titre informatif, Michel, ici au Québec, un album qui se vend bien, ça se vend à approximativement...
Entre 700 et 1000. Ça se vend bien.
Alors déjà là, on a un problème.
Oui.
Évidemment, on ne parle pas du succès phénoménal de Michel Rabagliati, qui est un cas unique.
Ce problème-là explique aussi... l'offre qui est faite. Ce problème-là, le fait que des albums de bande dessinée couleur, tout ça, grand public, sont pas rentables, ça explique le fait qu'il y a plein de petites maisons d'édition qui font des petits livres en noir et blanc. Les deux sont interreliés.
C'est comme s'il y avait vraiment une dichotomie entre l'offre et la demande.
Oui.
C'est qu'il y a une très, très grande offre, si je puis me permettre, du côté des éditeurs indépendants que j'ai mentionné tantôt.
Oui.
Et pourtant, avec le réseau des bibliothèques au Québec, avec les écoles, il y aurait moyen d'investir cet espace-là.
Oui.
Et non seulement de l'investir, mais de l'occuper avec intelligence et éloquence et préparer ultimement un lectorat.
Mais tu vois, je lisais récemment dans le journal à propos des éditions de notre éditeur Québec-Amérique, M. Fortin, qui disait il existe actuellement environ 1300 bibliothèques au Québec. Certains romans ne vendent qu'à 300 exemplaires. Comment ça se fait?
Oui, ça c'est un problème purement mathématique. Là.
Non, mais tu sais, ça serait comme normal que les bibliothèques publiques aient tous les ouvrages québécois. Là. Déjà là, ça permettrait la survie de plusieurs éditeurs et ça permettrait aussi à plusieurs auteurs de vivre.
Oui, et de voir à la pérennité du médium, c'est-à-dire préparer un lectorat. Je prends l'exemple de certaines compagnies théâtrales au Québec qui se spécialisent dans le théâtre jeune public. Alors, leur mandat est assez clair, en fait. C'est de préparer c'est de préparer le public de demain. Et donc, c'est d'habituer les jeunes à s'abreuver à cette forme artistique-là et plus tard, avoir une masse critique pour justement voir la pérennité de ce médium-là. Et pourtant, la bande dessinée n'échappe pas à ça. Et me semble-t-il, en plus, avec tout ce qui se passe, il y a une certaine, et je dis bien une certaine effervescence. On n'a qu'à nommer, par exemple, la mise en onde de l'émission BDQC sur les ondes d'Art TV, la kyrielle de podcasts, la kyrielle de chroniqueurs Internet, et même dans les journaux de masse, on en parle de la bande dessinée. Exact. On n'en parle peut-être pas toujours bien, on n'en parle pas toujours peut-être avec autant d'éloquence qu'elle le mériterait, mais on en parle.
Oui.
Et donc, comment se fait-il que fort de tout ça, pourtant, ça stagne. C'est-à-dire qu'on sent que les titres sortent les uns après les autres, Et pourtant...
T'as toujours quelques exceptions. Écoute, on peut comparer à la littérature aussi, tout simplement. Oui. Tu sais, c'est effarant le nombre de romans québécois qui est publié à chaque année, à chaque saison.
Parce qu'encore là, il y a une multiplicité de jeunes, de micro-maisons d'édition.
Exactement. Ouais. Et bon, je ne sais pas combien de centaines de romans qui sortent chaque saison, mais tu entends tout le temps parler de 2-3. C'est un peu la même chose avec la bande dessinée. Tu as 2-3 succès qui vont se démarquer et... les autres, ben.
Mais à la différence de tous les autres médias, Michel, et corrige-moi si je me trompe, j'ai vraiment l'impression que la bande dessinée, même si elle est là depuis longtemps au Québec, elle jouit encore à ce jour d'un aspect nouveauté. Et, oui. Et c'est pas pour rien qu'on voit, et ça, je trouve ça stupéfiant qu'à chaque année, il y ait dans les journaux des spéciaux sur la bande dessinée où là, on essaie, en un feuillet de quoi, 10-12 pages, qu'on essaie de brosser un portrait de la bande dessinée. Il y a des lustres qu'on fait tout ça pour le théâtre, mm-hmm. pour le cinéma, pour l'art actuel, pour les... Alors, comment se fait-il qu'on fait encore ça aujourd'hui pour la bande dessinée?
Parce que, je te dirais, là, c'est mon avis, là, ça vaut ce que ça vaut, c'est tout simplement que la bande dessinée, pendant longtemps, a été considérée comme un art mineur pour enfants. Et c'est seulement que depuis peut-être une vingtaine d'années, que la bande dessinée plus adulte est apparue au Québec, je dirais. Parce que, bon, en fait, c'est depuis les années 70 seulement que la bande dessinée est plus adulte carrément partout, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mais ça fait peut-être juste une quinzaine d'années qu'ici, ça commence à apparaître, avec un éditeur important comme La Pastèque qui est apparu il y a 15 ans. Mais t'avais avant ça, tu avais Phylactère dans les années 80 qui faisait de la littérature, de la bande dessinée adulte. Mais comme c'était des petits tirages, que c'était mal distribué et que c'était pas non plus dans l'air du temps, ce que le Phylactère faisait à l'époque n'était pas dans l'air du temps, comme ce que la Pastèque fait aujourd'hui. Parce que ce que la Pastèque fait aujourd'hui, ça se fait aussi en Europe, ça se fait aux États-Unis. Donc, c'est dans l'air du temps. On est envahi partout par ce genre de bande dessinée-là.
Mais il y a aussi le fait que la Pastèque a, d'entrée de jeu, décidé d'élargir ses frontières et de ne pas seulement publier des albums au Québec. Et ça, je pense que ce n'est pas du tout étranger à cette espèce d'ouverture-là.
Non, même, je pense que le tout premier album publié par La Pastèque, c'est un album américain, c'est Cher Julia, qui est un auteur américain.
Oui, tout à fait.
En partant.
Et d'ailleurs, cette semaine, pas plus tard que cette semaine, le Nouvel Observateur a dédié un article à l'album Les Deuxièmes de Zviane aux éditions Papard.
C'est pas Télérama?
C'est le Nouvel Observateur ou Télérama. Ah, ça se peut, bon, peu importe. Alors, disons un grand canon médiatique européen. Et en fin d'article, évidemment, la question allait de soi. Quand seront disponibles ces ouvrages-là sur le vieux continent?
Mais à ce moment-là, ben là, tu rentres dans une autre ligue à ce moment-là parce que c'est difficile. Là, il faut que tu concurrences les éditeurs européens.
Évidemment.
Et là, tu rentres dans le cercle des 5000 parutions. Parce que déjà, l'éditeur québécois, qu'on ne le veuille pas, va avoir quand même l'appui des médias québécois. Donc, un petit éditeur, comme Papa, va avoir l'appui. Les médias vont en parler.
Ouais.
En Europe, ce n'est pas garanti, parce que là, il va devoir affronter les gros éditeurs qui prennent toute la place possible.
C'est donc dire que, dans une certaine mesure, c'est beaucoup plus facile pour les éditeurs québécois de concurrencer sur leur propre terrain.
C'est la moindre des choses.
Oui.
Oui, c'est normal. Mais et encore, là, maintenant, les médias parlent de la bande dessinée québécoise, mais je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, même pas 10 ans, on allait en librairie et la bande dessinée québécoise, on la cherchait, puis on la trouvait sur le dernier rayon en bas. Là. On avait tous les gros succès européens et la bande dessinée québécoise, il n'y avait pas de promotion pour ça. Là. Les livres étaient tassés dans toute mêlée, peu importe le genre, et hop, c'était BD québécoise. Donc, ça prend de l'aide, du support des acteurs de tout le milieu, là, de toute la chaîne de production de livres. Donc, pas seulement que les médias, ça prend aussi les bibliothèques, ça prend les libraires.
Oui, c'est de mobiliser tout le monde et de les mobiliser dans un même geste, dans une même dynamique, dans une même lignée, ce qui ne semble pas être évident ici au Québec, mais et nulle part ailleurs d'ailleurs.
Non, c'est pas évident. Et je reviens aussi à ce que je te disais plus tôt. Il faut aussi penser à celui qui est tout au bout de la chaîne, c'est-à-dire le lecteur. Il faut penser à lui offrir quelque chose.
C'est drôle parce que l'impression que j'ai, justement, c'est qu'on ne pense pas toujours à lui, justement.
Effectivement.
C'est-à-dire que maintenant, on peut, je pense qu'on peut être très fier au Québec d'avoir un milieu dynamique où il y a plus que 2 titres annuellement qui paraissent. Oui. Ça, c'est une très, très bonne nouvelle.
Oui, on est à peu près 100 là, depuis quelques années. Là, si tu comprends aussi ce qui est publié en anglais par Drum & Quarterly, Conan Drum, des éditeurs montréalais. Donc, on a 100 de titres annuellement.
Ce qui aurait été impensable lorsque tu as commencé en 96 à travailler à ton premier ouvrage.
Oui.
Ceci dit, effectivement, une des raisons peut-être pour laquelle le lectorat ne rencontre pas certains titres, c'est justement parce qu'à la base, on a plus ou moins idée à qui s'adresse cette chose-là. Mm-hmm. Mais ça, en fait, c'est une... C'est une responsabilité de l'éditeur, évidemment, ça va de soi, mais... Mm-hmm. Mais il y a aussi des infrastructures à mettre en place. La
responsabilité de l'auteur aussi, en premier. C'est sûr que l'auteur offre ce qu'il a envie d'offrir, mais c'est aussi à l'éditeur à
diriger. Et à partir de là, il y a aussi des libraires, il y a aussi des bibliothécaires qui prennent la balle au bon.
Ouais.
Et ça aussi, encore une fois, dans les grands centres urbains, on peut s'abreuver en bande dessinée dans des librairies spécialisées. Mm-hmm. Et donc, conséquemment, des libraires spécialisés, ce qui n'est pas le cas dès qu'on sort...
Dès qu'on sort du grand centre.
Ouais. Mm. Ça, c'était une très, très grande parenthèse, parce qu'on parcourait ton CV, mon cher Michel. Oui, alors, permets-moi de... Non, mais on poursuit, on discute à bâton rompu. Donc, 2014 sera et à ce jour quand même une grosse année pour toi, puisque tu as publié et... c'est le moment obligé de la plug.
Encore?
Ben oui, encore. Tu as publié pour le compte des éditions Mémoire l'ouvrage BDQ Histoire de la bande dessinée au Québec des origines à 1979, donc un premier tome. Mm-hmm. Pour la petite histoire, évidemment, je t'ai lu dans Mensuel et c'est moi qui a ressorti le fouet, qui a pris la relève de Francis Hervieux. Parce qu'il m'apparaissait clair pour moi que cette somme de travail... qui dormait, se devait d'être vu et lu. Et donc, je t'ai invité fortement à revisiter ces écrits-là.
Et c'était quelque chose, de toute façon, qui me travaillait aussi, là, que ça me tentait de le faire. C'était beaucoup de travail, plus que je pensais, parce que j'ai tout revisité et j'ai rajouté tout ce que j'avais découvert entre-temps. J'ai corrigé des erreurs qui étaient dans ces articles-là. J'espère que personne ne va les lire maintenant. C'est toujours dommage. Hein? Quelqu'un écrit un texte, fait une erreur, et cette erreur-là se perpétue. J'ai lu dans je ne sais pas combien d'articles que telle série mettait en scène une petite fille. Mais quand on va la voir dans les microfilms, quand on va voir les journaux, on s'aperçoit que c'est un petit garçon, le personnage. Mais le premier a dit que c'était une petite fille et tout le monde a rapporté que c'était une petite fille.
Oui, donc, en ce sens, les erreurs factuelles se perpétuent.
Oui, donc on a quand même une certaine responsabilité quand on écrit ce genre d'ouvrage-là, d'essayer de faire le moins d'erreurs possible et de vérifier. Et c'est pas de se fier sur les articles qu'on lit, mais d'aller vérifier.
De faire ses recherches, de faire ses devoirs.
D'aller vérifier la source directement, ce qui n'est pas toujours évident. Parce que on n'a pas accès à tout. Fait que parfois, on doit se fier à ce qu'on voit écrit ailleurs, et avec des risques.
Oui, et de toute façon, c'est un gros boulot, la recherche.
Oui, c'est un travail quasiment à temps plein là, de chercher tout ça. Il y a des périodes encore qui restent nébuleuses, parce que, c'est sûr qu'on regarde, mettons, dans les années 20, on va regarder les grands journaux, les journaux des grands centres. On va regarder les journaux de Montréal, de Québec, peut-être un peu de Sherbrooke, qui avait moins de journaux à ce moment-là, mais il y a tous les journaux de région qui peuvent avoir publié de la BD, et on en a trouvé, justement, dans ces journaux. Je pense à la série Les aventures du capitaine Morgan, qui n'a pas été publiée dans les grands journaux de Montréal ni de Québec, mais qui a été publiée dans une dizaine de journaux, de journaux de province, de différentes petites villes, où les deux petits nains de Paulin Lessard, une série mythique, qui a été publiée dans plusieurs journaux, au Saguenay, à Granby, un peu partout, mais ce n'est pas dans les centres urbains. Même chose, même l'exemple le plus frappant, c'est Onésime, qui paraissait depuis 1943 et que personne ne connaissait avant que Victor Lévy-Beaulieu décide d'en faire des albums en 1973.
Quand tu dis que personne ne les connaissait, c'est dans les gens des grands centres.
C'est ça.
Parce qu'évidemment, les gens qui habitaient en banlieue ou qui habitaient à la campagne, eux, avaient accès, évidemment, au bulletin des agriculteurs.
Une série extrêmement populaire. Ouais. Il y a plein de gens qui m'ont dit que c'était la première chose qu'ils lisaient dans le bulletin des agriculteurs. Mais dans les grands centres urbains, Montréal, Québec, on ne connaissait pas parce que ce n'était pas diffusé ici. Donc, c'est tout ça pour dire qu'il y a encore de la recherche à faire. Même si on regarde les journaux de Montréal, de Québec, ce n'est pas tout. Il faut fouiller dans la moindre petite feuille, les magazines, le journal Radio Monde, le journal sur les émissions de radio des années 50 qui regorgeait de bandes dessinées pendant une brève période. C'est ça qui est difficile. Tu peux regarder ce journal-là, tu vas regarder l'année 1949, tu vas regarder l'année 1954, il n'y a rien. Mais il y en avait plein entre les deux. Fait que tu ne peux pas faire des bons. Il faut vraiment tout fouiller sans arrêt.
Il y a aussi le fait, Michel, que même si ces 40 dernières années, il y a eu quelques ouvrages de référence de Léger sur la bande dessinée québécoise, c'est quand même pas un terreau fertile au niveau éditorial. C'est-à-dire qu'il y en a eu dans le temps, mais pour des problèmes de réédition. En fait, ce sont des titres qui souvent sont vite venus épuisés. Je pense notamment au classique au BDK,
le gros livre orange. Oui, encore à l'occasion, là, en usager, ouais. Qui était sûrement eu un bon tirage parce que c'était une revue, en fait.
Ouais.
Ce gros livre-là, c'était 4 numéros d'une revue, La Barre du Jour. C'est le premier. C'est le premier ouvrage sur la bande dessinée québécoise. Et c'est bien parce que c'est un instantané de cette époque-là. C'est les gens qui participaient aux revues elles-mêmes de l'époque qui ont rédigé des textes sur leurs revues, que ce soit l'Hydrocéphale illustré, l'écran, BD. Donc, c'était les gens de l'époque qui ont écrit.
Et ça aura aussi permis à des gens comme Jacques Sanson de créer, si on veut, cette espèce de boulot-là, d'historien, ou en tout cas de porteur de...
Oui,
porteur de nouvelles. Jacques Sanson a été le premier Québécois, notamment, à collaborer à une...
Les cahiers de la bande
dessinée. Cahiers de la bande dessinée, donc une revue française.
Oui. Le premier historien, en fait, le premier à s'être intéressé à l'histoire, c'est Gilles Thibault, l'auteur jeunesse Thibault. C'est lui le premier qui avait écrit dans Québec Underground, en 73, une histoire, somme toute sommaire, mais c'était les débuts. C'était difficile à tout trouver, là, mais les grandes lignes étaient déjà là à ce moment-là. Il y a eu Jean Véronneau, ensuite, dans les années 70, qui a épluché les journaux du début du siècle et tout ça. Donc, depuis les années 70, il y a de la recherche qui se fait. Ce qui rend la chose difficile, c'est qu'il n'y a jamais eu de réédition de toutes ces bandes dessinées-là publiées dans les journaux. Le Père la débauche d'Albéric Bourgeois était un personnage extrêmement populaire pendant la première moitié du 20e siècle. Il n'y a plus personne aujourd'hui qui le connaît, à peu près. J'ai lu quelque part qu'il y avait deux personnages qui ont marqué l'esprit des Canadiens français à cette époque-là. Il y avait Séraphin et il y avait le Père la débauche. Le Séraphin, finalement, grâce à la télévision, est resté dans les mémoires. On en parle encore aujourd'hui. Il y a encore des livres qui sont publiés sur le sujet, sur le personnage, que ce soit en bande dessinée ou des romans. On parle même d'un retour à la télévision, du feuilleton Les belles histoires des pays d'en haut. Tandis que le Père la débauche, lui, d'Albéric Bourgeois, ils sont pris dans l'oubli depuis. On n'a pas fait le passage, si je peux dire, pour rester dans les mémoires. Et c'est dommage. Mais c'est ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'écrit. Encore une fois, il y a Victor Lévy-Beaulieu qui a essayé de le raviver en publiant Les voyages de la débauche autour du monde dans les années 80. C'est un des premiers ouvrages des éditions BLB. C'est ça. C'est le fait que tous ces personnages-là, Timothée, qui est quand même, c'est pas n'importe quoi, Timothée est la première série de langue française avec des phylactères. C'est une série, c'était à chaque semaine. Il y en a eu 500 pages, mais c'est complètement oublié aujourd'hui. C'est pas rien, c'est la naissance de la bande dessinée francophone. Pas seulement que la bande dessinée québécoise, c'est la bande dessinée francophone. Et il n'y a personne qui peut lire ces bandes dessinées-là. C'est une perte.
Oui, en fait, c'est que la bande dessinée québécoise est en panne de sa propre histoire. Parce que, étant donné que les séries, ce qui est de moins en moins vrai maintenant, on n'a qu'à penser au travail de certaines maisons d'édition, comme par exemple La Pastèque, qui réédite qui a réédité les Michel Risque, les Red Ketchup.
Oui, les 400 coups aussi avec Séraphin, Onésime. Donc, il y a quelques rééditions. Maintenant, on s'aperçoit de la richesse du patrimoine de la bande dessinée québécoise, mais pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Et aussi, ce qui n'a pas aidé, c'est que les bandes dessinées qui paraissaient dans les journaux n'étaient pas, à la façon américaine, « syndicated ». Donc, ils n'étaient pas diffusés dans d'autres journaux. Ça paraissait dans La Patrie, mais ça paraissait dans La Patrie, point. Ça paraissait pas à Québec, ça paraissait pas à Sherbrooke, ça paraissait pas partout et pour que le personnage soit connu à l'échelle de la province. Quand je te dis que La Débauche était connue, c'est pas par ses bandes dessinées, parce qu'en fait, dès les premières années, en fait, il y a eu une année de bande dessinée du Père La Débauche, et ensuite, c'est devenu une chronique, mais c'était plus que ça, c'est qu'Albéric Bourgeois l'animait aussi sur scène, il y avait des spectacles avec le Père La Débauche, il y a eu des disques qu'on peut entendre sur le site de la Bibliothèque nationale du Canada. Donc, des monologues, des chansons, le personnage était sur scène, était à la radio aussi, ce qui fait qu'il était connu. C'est pas sa parution en bande dessinée dans la presse.
En fait, il a pu survivre parce que, justement, la série était déclinée en différentes formes c'est artistiques. Ça. Donc, c'est un peu dire que La Débauche a été un projet 2.0 bien avant le temps.
Exactement. Oui, c'était le premier personnage à sortir de ses pages. En fait, il faut dire que La Débauche a une très, très longue histoire, qui est très riche, qui date de 1878. Le personnage est apparu sous forme de texte en premier. C'est Hector Berthelot qui dirigeait un journal humoristique, Le Canard, qui publiait des lettres d'un certain La Débauche. Qui lui écrivait, La Débauche voyageait, allait rencontrer la reine Victoria, lui expliquait comment amener ses affaires et tout ça, et écrivait donc au Canard pour raconter qu'est-ce qu'il avait fait. Berthelot était aussi caricaturiste et a commencé à faire des caricatures en mettant ce personnage-là de La Débauche. Donc le personnage est resté dans Le Canard et dans d'autres journaux que Berthelot a fondés par la suite, s'est promené un peu. La presse, quand La Patrie a commencé à publier de la bande dessinée, en 1904, la presse s'est dit, bon, on doit avoir une bande dessinée, prenons un personnage connu, pouf, La Débauche. Donc, Des aventures de La Débauche, dessinée cette fois par Joseph Charlebois. Berthelot était décédé entre-temps. Donc, il y a eu cette bande dessinée-là, Charlebois a quitté après un an, Albéric Bourgeois a pris le personnage et est revenu à la source, donc aux chroniques illustrées avec des caricatures de La Débauche et tout ça. Donc, la période bande dessinée de La Débauche, c'est à peu près un an seulement. Ça n'empêchait pas parfois, mais vraiment parfois, Albéric Bourgeois d'incorporer La Débauche dans d'autres bandes dessinées qu'il faisait, là, Toinon et Polyp, des choses comme ça. On voyait parfois La Débauche. Mais, donc, c'est ça. Et, assez rapidement, La Débauche est sortie des pages de la presse pour se retrouver sur scène, sur disque et à la radio.
Et aujourd'hui, très peu de gens sont en mesure, comme toi, de parler.
Il y a eu un colloque, c'est surprenant. Hein? Il y a eu un colloque, il y a 2 ans, je pense, sur La Débauche à l'UQAM. C'était un personnage qui mériterait d'être ressuscité, qu'on redécouvre l'importance qu'il a pu avoir à son époque.
Et toute la richesse historique, tout le contexte sociopolitique aussi qui entoure ce personnage-là.
Exactement.
Et c'est souvent ce qui donne à tort l'impression aux gens là, que la bande dessinée québécoise, en fait, elle est toute jeune, qu'elle a 15-20 ans d'existence.
30 ans maximum, pour ceux qui s'y connaissent plus, c'est les années 70.
C'est drôle parce qu'il y a toute une nouvelle génération de néophytes, et je le dis vraiment sans arrière-pensée, mais qui considèrent qu'on vit présentement le printemps de la bande dessinée, alors qu'en fait, le printemps de la bande dessinée, c'était dans les années 70, et encore là, on pourrait discuter longuement.
Parce qu'on peut aussi dire que l'âge d'or de la bande dessinée québécoise, c'est en fait à ses débuts, de 1904 à 1908, il y a eu au-dessus de 500 pages de bande dessinée publiées, que ce soit Timothée, La Débauche, Les Contes du Perrault et une dizaine d'autres séries qui ont été publiées pendant des années. Donc, c'était une période très foisonnante, et seulement dans 2 journaux montréalais, en plus. C'était vraiment confiné là-dedans. Mais donc, c'est comme on revit constamment, on redémarre. Hein? 1904, l'âge d'or de la bande dessinée. 1968, le printemps de la bande dessinée. Et là, on est rendu en 2014. Ah, c'était un âge d'or merveilleux, le printemps de la bande dessinée québécoise encore. J'ai hâte qu'on arrive à un moment donné où il pourra avoir, et on a failli l'avoir avec Kuro, où les gens pourront vivre le sur-tu sais, qu'il y a vraiment une industrie de la bande dessinée, qu'il y a des albums qui sortent régulièrement, que les auteurs soient payés pour faire leur bande dessinée. Parce que comme c'est là, c'est souvent la même chose. Les gens en font pendant quelques années Et puis, à un moment donné, bon, on va se trouver un autre boulot parce qu'ils n'en vivent pas, puis ça finit là.
Ben, de toute façon, Michel, c'est la problématique au Québec. Vivre de son art, peu importe l'art, c'est en soi quelque chose d'héroïque. J'en parle en connaissance de cause.
Et je pense que la situation précaire des auteurs québécois est en train d'atteindre les Européens.
Oui, c'est terrible ce qui se passe présentement. Et justement, à cause de la surproduction, maintenant, un auteur, un jeune auteur, c'est pratiquement impensable pour lui d'arriver chez un éditeur et de développer une série à 10, 12, 15 albums.
Non. Mais maintenant, après deux albums, si ça n'a pas décollé, si les ventes ne sont pas conséquentes, l'éditeur tire la plug. Pourtant, on disait dans les années 70, peut-être que la situation a changé, que les séries, en fait, décollaient au cinquième ou sixième tome.
Donc, alors, il y a très peu de gens maintenant. Et par exemple, on n'a pas allé loin. Là, pour citer des exemples, on pense notamment à Thierry Labrosse avec Abirato.
Oui, ou Sagana de François Lapierre, après deux excellents tomes.
Oui.
L'éditeur a tiré la prise parce que ça ne vendait pas assez.
En fait, on pourrait même dire qu'ici, au Québec, outre De Laff et Dubuc qui connaissent un succès fulgurant, Jacques Lamontagne, qui aussi, avec ses séries Les Druides et Aspic, a vraiment un rythme de croisière impeccable. C'est quand même difficile, même pour nos artisans locaux, de se placer dans la bande dessinée européenne.
Oui, c'est difficile. C'est difficile pour les auteurs européens, c'est autant difficile pour nos auteurs québécois. Les éditeurs européens, de toute façon, recrutent des dessinateurs partout dans le monde maintenant.
Tout à fait.
Bon, c'est pas seulement que tu es francophone, tu vas travailler là. Non, ils en recrutent de différentes langues, de différents pays.
C'est la même chose.
Des pays de l'Est.
C'est la même chose dans le comic book américain.
Oui, exactement.
Par exemple, ici à Montréal, encore là, il y a très, très, très peu de gens qui vivent bien de leur art. On n'a évidemment qu'à penser à Yannick Paquette, qui travaille depuis déjà maintenant 20 ans, pour les grands éditeurs, que ce soit Marvel ou DC. Il y a Wes Craig, un jeune illustrateur montréalais qui se débrouille, ma foi, très, très bien, notamment avec une série chez Image. Mais encore là, ce sont une poignée d'élus.
Oui. Ben écoute, est-ce que le marché peut supporter autant d'albums? Est-ce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, en fait?
Ben, est-ce que le marché peut supporter? C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a pas assez de lecteurs.
Ouais.
En fait, le problème, il est là. C'est que tous les autres pans éditoriales, tous les autres pans de la chaîne éditoriale se développent. Mais pourtant, les lecteurs, eux...
Ça n'a pas tellement augmenté, non?
En fait, c'est-à-dire que le rythme de croisière est moindre. C'est-à-dire qu'il y a deux courbes de croissance. Et donc, même s'il y a toujours un peu plus de lecteurs, il y a 15 fois plus de nouveautés et de titres de disponibles que de lecteurs. Comment pourrait-on développer le lectorat? On en a parlé tantôt par
Il faut rejoindre, moi, je pense qu'il faut rejoindre le lecteur rouillé. Je pense qu'il faut prendre le lecteur assez jeune. Donc, les jeunes vont, à mon avis, pas vraiment en librairie. Bon, au dépanneur, c'est là qu'il faut les atteindre. Tu vois, Crow, à l'époque, était venu à la même conclusion. C'est Pierre Fournier, en fait, qui avait insisté pour que les albums, les Crow albums, les premiers albums de Michel Risque et tout ça, soient vendus dans les dépanneurs. Et ça avait marché.
Non, il avait vu juste,
oui,
ça, c'est clair.
C'est l'endroit où tout le monde va. Le dépanneur, l'épicerie, tout le monde y va à un moment ou à un autre. Mais en librairie, pas nécessairement. Tu y vas quand tu veux vraiment t'acheter un livre. Mais au dépanneur, tu y vas pour une pinte de lait, puis tu vois un album de Michel Risque.
Oui, mais Michel, en 2014, les jeunes sont-ils plus... au dépanneur ou sont-ils plus devant leur écran d'ordinateur ou sur leur téléphone intelligent?
Ça, c'est... Écoute...
c'est complexe,
pour en avoir un à la maison, un ado, il est plus devant son téléphone. En fait, son iPad, son iPod.
Ce qui n'est pas une plug, ceci dit.
Non, on n'a pas de part là-dedans.
Non.
Mais est-ce que ce support-là est fait pour la bande dessinée? J'ai des doutes. Pas pour la bande dessinée sous la forme qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire d'une planche de bande dessinée. La bande dessinée, c'est une planche, c'est un ensemble de dessins. Si tu regardes ça sur ton petit téléphone, mais tu regardes un dessin à la fois, c'est plus le même...
Pourtant, sur les tablettes, Michel, on peut très bien...
Sur la tablette, à la limite, oui. Mais sur la tablette, est-ce que les jeunes ont des tablettes? Je pense qu'ils ont plus des téléphones.
Mais ceci dit, il y a là, encore une fois, un médium en pleine effervescence. Et on regarde, il y a quantité de jeunes artistes maintenant qui, au lieu de publier des fanzines ou d'auto-éditer des albums, parce qu'il y a quand même des implications monétaires là-dedans, qui vont littéralement investir le web.
Oui, ça, c'est depuis longtemps. Écoute, depuis le début des années 2000, les fanzines ont tombé au Québec. Il y avait beaucoup de fanzines à partir du milieu des années 80 jusqu'en 2000. C'était plein de fanzines. Tu avais plein de petits trucs photocopiés de 8, 12 pages, 16 pages. Tu en avais plein. Tu n'en as plus du tout.
Ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fanzine s'est aussi développé, étant donné la démocratisation de la technologie. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on peut aller chez un imprimeur, imprimer sur demande
exact.
Et arriver avec un produit dont on n'aurait même pas pu rêver il y a 20 ans.
Exactement,
quand on pense à toute la bande Henriette Valium, Julie Doucet, pour ne nommer que ceux-là, Richard Suicide et compagnie, toute cette bande-là, Cyrus, qui à la fin des années 80, début des années 90, ont vraiment pris à bras-le-corps le médium du fanzine et qui l'ont développé.
Ouais.
Bon, en même temps, ils allaient à la rencontre d'un lecteur. Mm-hmm. C'est-à-dire que le fait d'imprimer, de brocher et d'aller vendre, il y a une rencontre.
Ouais.
Mettre en ligne, est-ce que c'est une rencontre?
Ben, certains vont te dire oui, et immédiate. Tu as des rapports immédiatement avec tes lecteurs qui peuvent commenter.
Mais est-ce que, par exemple, Michel, et là je me fais l'avocat du diable, mais est-ce que cliquer « j'aime » sur une publication sur Facebook, est-ce que ça, c'est véritablement aller à la rencontre d'un lecteur?
Pas vraiment, non, parce que moi, je peux voir par des pages que j'administre que tu as plus de j'aime que de gens qui ont cliqué sur la page. Ils l'ont aimé sans même aller voir. OK.
Ouais. Donc, et parlant d'Internet, justement, je t'y amène, puisque c'est la dernière ligne de ton CV pour l'instant, parce que c'est une histoire qui s'écrit au quotidien, mon cher ami. N'est-ce pas? Tu as lancé avec Patrice Hudon la nouvelle mouture du site BD Québec.
Oui.
Je donne l'adresse pour le bénéfice des éditeurs, bd-québec.com.
Oui.
Et je dis nouvelle mouture parce qu'en fait, BD Québec a existé dans une première incarnation. Une première
forme. C'était Michel Plot qui avait lancé ce site-là en 1997-98, qui était un site tout simplement d'un amateur de bande dessinée qui avait envie de parler de bande dessinée québécoise, donc de parler de séries comme Michel Risk ou Red Ketchup, qui était
dans l'Internet 1.0, là, juste pour, pour que les auditeurs figurent. Ah, oui. Là, on parle d'un Internet qui est beaucoup moins participatif.
Oui.
En fait, le pinacle de la participation à cette époque-là, c'était le forum.
Oui, qui est arrivé après. Au début, c'était seulement des pages d'informations sur des personnages, sur des auteurs. C'est ajouté ensuite un volet forum, sur lequel il y avait différentes discussions, parfois musclées. Avant que BD Québec ait son forum, c'était sur le site BD Paradisio que les Québécois se retrouvaient pour s'engueuler entre eux autres. Oui, il y avait plusieurs sujets.
Ben, on retrouve encore quelques traces de ça si on cherche.
Oui, ça se trouve encore. Il y a eu le forum. Sur le forum, ensuite, j'ai créé une section qui était fil de presse dans laquelle je publiais toutes les nouvelles.
Parce que tu as joint.
J'ai joint assez rapidement. Ouais. Presque tout de suite après la sortie du BDQ en 1999, j'ai contacté Michel. Je lui ai dit que je serais intéressé à écrire sur des personnages, sur des auteurs et tout ça. Et je me suis joint au site. C'est à peu près la même période où je me suis joint aussi à Zinzag, pour lequel j'écrivais des critiques d'albums. Et donc, je me suis impliqué beaucoup dans BD Québec. À un moment donné, Michel s'en est détaché. Les dernières années, c'est moi qui m'en occupais seul. Puis avec Francis Hervieux pour certaines choses et tout ça. Mais j'avais le fil de presse qui était très populaire, sur lequel je publiais chaque jour, 365 jours par année pratiquement, des nouvelles tous les jours. Sur ce qui se passait, que ce soit des sorties, des lancements, peu importe. Et donc, ce site-là, j'ai arrêté de m'en occuper au moment où je suis devenu directeur chez 400 coups, parce que je ne pouvais pas faire les deux. Je trouvais qu'il y avait un conflit d'intérêts assez marqué là. Et donc, j'ai arrêté. Et récemment, on m'a proposé de faire un blog sur la BD. Genre, pourquoi pas, mais je n'avais pas envie de retomber encore dans le fil de presse et de mettre des nouvelles tous les jours. Je me suis dit que ça pourrait être des capsules historiques, tout simplement de prendre des petits passages de l'histoire, des choses amusantes, J'en mettais sur Facebook à l'occasion. Je disais, on pourrait faire un vrai site qui deviendrait graduellement, ça va prendre plusieurs années, mais qui va finir par devenir une véritable encyclopédie de la BD québécoise. Donc, j'y vais. Je papillonne d'une époque à l'autre. Je vais mettre un truc de 1980 une journée, un autre de 1905 le lendemain. Ensuite, je vais aller à 49. Je me promène dans différentes époques et je mets des petites capsules sur des séries importantes, sur des albums qui sont parus, des choses comme ça. Tranquillement, puis d'une capsule à l'autre, il y a des liens qui se forment et on va avoir dans, je dirais, 3 ans, on va avoir un beau portrait.
Pourquoi, Michel, s'intéresser à l'histoire de la bande dessinée au Québec?
Il faut savoir d'où on vient, il faut savoir qu'est-ce qui s'est fait, pour justement ne pas penser que la bande dessinée québécoise a 15 ans, ou qu'elle en a 30, ou qu'elle en a 40. La bande dessinée est beaucoup plus riche que ça, et on ne connaît pas ce qu'on a fait, on ne connaît pas les gens qui ont fait des choses avant. Bien, c'est important, je pense qu'on le sache.
Oui, parce que évidemment l'histoire s'incarne plus souvent qu'autrement dans le présent ou dans le passé pas très lointain.
Oui, c'est ça.
Et aussi, on vit à une ère où... on est dans l'ère instantanée, dans l'ère du clip et aussi de la saveur du moment. Et puis, le lendemain, tout est à recommencer.
C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait des traces, justement, du fait qu'il y ait des gens qui pensent que la bande dessinée existe depuis peu. C'est qu'il n'y a pas d'ouvrage ou il n'y a pas rien qui te dit « Non, non, regarde, ça existe depuis 100 ans, même plus de 100 ans. » Et il y a eu de bonnes choses qui se sont faites. Qu'on arrête de penser que la bande dessinée québécoise, c'était une œuvre misérabiliste, puis que ça ne marche pas, puis que c'est des échecs, puis des échecs. Non, il y en a eu de la bonne, puis il y en a eu depuis longtemps, et voilà, c'était ça.
Et, en quelque part, on peut dire que ton travail rédactionnel et éditorial est complémentaire à celui que tu fais en ligne.
Oui, 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 celui que je fais aux éditions de mémoire. Oui, oui, les deux, c'est ce sont complémentaires. Je dirais juste que dans le cas du livre, je peux aller plus dans une mise en contexte, tandis que sur le site, c'est plus des capsules. Je vais vraiment parler d'une série, mais elle ne sera pas mise dans son contexte socio-historique comme je peux faire dans le livre, qui est classé plus par chapitre, où je vais parler, bon, voici à cette époque-là, puis là, je vais décrire qu'est-ce qu'il y avait. Sur le site, c'est plus des capsules individuelles qui peuvent se lire toutes seules, puis qui n'ont pas besoin de... Mais, comme je te dis, il y a tout le temps des ramifications qui se forment graduellement à travers toutes ces époques-là. Il y a des fois des liens surprenants.
Michel, pour terminer... question ouverte. Oui. Comme observateur et comme acteur de la bande dessinée québécoise et de la bande dessinée en général aussi, parce que tu ne t'intéresses pas qu'à la bande dessinée québécoise, évidemment. Qu'est-ce qui, pour toi, serait la prochaine étape au niveau du développement de la bande dessinée aussi au Québec? Ou qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il arrive au Québec?
En fait, une plus grande diversité de la production.
Donc, un écosystème plus varié.
Ouais. Oui, j'avais essayé de le faire à 400 coups, mais le bassin de lecteurs est vraiment petit. Donc, pour moi, l'idéal, ce serait qu'il y ait une ou deux bonnes revues de bande dessinée qui paraîtraient sur une base régulière, qui offrirait la possibilité à plusieurs auteurs de travailler. Vivre de leur travail.
Et ce qui permettrait aussi, par le fait même, d'en faire profiter tout le monde dans l'industrie, que ce soit les éditeurs, les auteurs, les distributeurs, parce qu'évidemment, lorsqu'on entretient un écosystème, lorsqu'on le maintient en santé, lorsqu'on le garde actif, ça profite à tout le monde, finalement.
Exactement. Donc, ça serait d'aller chercher le lecteur. Il faut aller l'intéresser à ce qui se fait. Et je ne suis pas sûr que juste de mettre des albums sur des tablettes de librairie, ça soit suffisant.
Michel Vieux, on peut continuer de te suivre sur bd-québec.com, le site de Capsule Historique. Et puis, écoute, Michel, Monsieur Vieux.
Oui, merci.
Je te souhaite, Monsieur Vieux, un bon vent pour la suite des choses. Et puis, je dirais au plaisir de te vouvoyer une prochaine fois, Michel.